Oui, ces deux thèmes se voyaient déjà dans le chapitre 1, en ce sens que Dieu appelle Jonas, dans les premiers versets déjà, il appelle Jonas et lui dit, va à Ninive et va dans cette ville, va crier contre elle. On a décrit un peu qui étaient les Ninivites. Ninive, capitale de l'Assyrie, un peuple cruel, barbare et sauvage, ennemi d'Israël. Et au lieu d'aller à l'est, comme Dieu l'envoie, Jonas va partir en direction de l'ouest. Il va dire qu'il fuit la face de l'Éternel. Mais Dieu va aller à la poursuite de Jonas. Et dans cette poursuite, il nous montre justement, lorsqu'on regarde la poursuite que le Seigneur fait après Jonas, on voit ces deux thèmes-là qui ressortent. Premièrement, Dieu poursuit Jonas par la tempête. Il fait lever, il déchaîne une tempête sur la mer au point où le bateau frôle le naufrage. Il montre ainsi qu'il est vraiment souverain. Ensuite, les mariniers vont s'engager à tirer au sort pour savoir qui c'est qui attire ce malheur. Et le Dieu, une fois de plus, va conduire le sort vers Jonas. Ensuite, Dieu va utiliser les mariniers. Vu que la mer se faisait de plus en plus menaçante, les mariniers vont jeter Jonas par la mer. Dieu est vraiment souverain. Dans ce même chapitre, nous avions aussi vu que le salut appartient à Dieu. Dieu sauve qui il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu sauve les mariniers. Une fois qu'ils vont jeter Jonas par-dessus bord, la tempête va se calmer et ils auront la vie sauve. Et ils vont le confesser d'ailleurs. Ils vont dire qu'en dehors de l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Au chapitre 1, verset 14, ils vont dire, tu es l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Ensuite, pareil, après avoir sauvé les mariniers, il va envoyer, Jonas est dans l'eau, et il va envoyer un poisson pour avaler Jonas. Voilà le résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant, je vous propose de regarder le texte qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est Jonas chapitre 2. Tournez à vos Bibles à Jonas chapitre 2 et regardons ensemble. Je lis. Si vous y êtes. D'ailleurs, j'ai mis le texte. Ah, non. Inutilisable. Je pense que... T'arrives à lire? Ah bon? Ok. Bon, je vais lire quand même dans la Bible et vous pouvez suivre dans vos Bibles. Jonas chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et il dit... Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est la parole de Dieu. Priez encore avec moi, s'il vous plaît. Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes. Elle est lumière à nos pieds, elle guide nos vies, elle nous montre ton Fils, Elle nous montre ta gloire, elle nous conduit au salut, elle nous garde dans les promesses de l'Évangile. Nous te remercions, Seigneur. Nous prions que par ta parole, tu nous bénisses. Nous prions, Seigneur, que par ta parole, que ton Saint-Esprit travaille nos cœurs, réforme nos vies et nous envoie dans le monde pour proclamer haut et fort l'amour, la gloire et la bonté de notre Seigneur. Nous prions tout ça au nom de Jésus. Amen. Alors, une première question pour commencer ce message. Que faites-vous lorsque rien ne va plus? Je veux dire, où cherchez-vous le secours lorsque vous vivez des situations difficiles? Je veux dire, lorsqu'au boulot c'est tendu, vers qui vous tournez-vous? Lorsque dans les amitiés, lorsque dans la famille, il y a des tensions, vers qui vous tournez-vous? Et même lorsque intérieurement, vous perdez la paix, où cherchez-vous du secours? Je veux dire, lorsque le médecin annonce de mauvaises nouvelles concernant votre santé, quel est votre premier réflexe? Certains se réfugient souvent dans le yoga, vous savez, le yoga et la méditation transcendantale, peut-être que vous avez déjà entendu parler. D'autres encore essaient de se reposer sur des amis ou des proches. Certains préfèrent se noyer dans l'alcool, dans les drogues et toutes sortes d'excès. D'autres préfèrent juste blasphémer contre Dieu. Et vous alors, lorsque rien ne va plus, lorsque vous vivez des situations difficiles, quel est votre premier réflexe? Lorsque vous ne maîtrisez plus rien, je veux dire, lorsque vous perdez pied, vers qui allez-vous? La dernière fois qu'on s'est vu dans cette salle, on a abandonné notre ami Jonas dans le ventre du poisson. Et c'est de nouveau dans le ventre du poisson qu'on le retrouve. Il est dans une situation très inconfortable. Il est dans un lieu assez extraordinaire. Et le verset 1 de ce texte nous dit que, regardez avec moi, verset 1, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Peut-être que d'entrée de jeu, c'est ce premier verset choc. Un homme qui fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson et qui en ressort vivant. Ça choque. Et peut-être qu'on peut être tenté de dire, « Oh, c'est peut-être juste une fable, c'est pas tout à fait vrai. » Parce que sinon, comment est-ce possible qu'un homme fasse 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson et ressorte vivant? Alors, si vous vous posez cette question, rassurez-vous, votre interrogation est légitime. Je n'ai pas l'intention de vous expliquer comment cela est possible, mais je vais plutôt vous dire pourquoi personnellement moi j'y crois. Pourquoi est-ce que je crois que c'est une histoire vraie? J'y crois parce que lorsqu'on lit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, Jésus, le Seigneur Jésus, qui connaît tout et qui maîtrise tout, va dire aux pharisiens qui sont en train de l'accuser, qui essaient de le piéger, il va leur dire qu'il n'y aura aucun autre signe qui leur sera donné en dehors du signe de Jonas, qui fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est-à-dire que Jésus, le Fils de Dieu, identifie, inscrit, présente son ministère à partir du signe de Jonas. Si c'était une fable, Jésus ne l'aurait certainement pas fait. Et donc j'y crois, je crois que cette histoire est vraie, sans forcément savoir comment elle l'est. Je crois qu'elle est vraie parce que Jésus identifie, présente, inscrit son ministère à partir de ce texte-ci. Et d'ailleurs, souvenez-vous un peu que l'un des thèmes forts de ce chapitre, C'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui montre qu'il domine tout, il contrôle tout. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et ce fut un temps de grande réflexion, un temps de méditation profonde. Avant d'en parler, il est important de comprendre la situation dans laquelle Jonas se trouve. Jonas est jeté dans la mer. C'est-à-dire que là, il perd le contrôle total. Il s'enfonce sans espoir et il va vers une mort certaine. C'est-à-dire, jeté dans l'eau, il va vers une mort absolument certaine. Dans sa condition, il n'a pas beaucoup d'amis à qui il peut parler dans cette condition-là. Dans cette condition-là, il ne peut pas trop faire de yoga. Hein? Il est en train de s'enfoncer dans l'eau. Il ne peut même pas boire. Parce que s'il ouvre la bouche, il va boire de l'eau, il va en boire beaucoup. Et il va mourir étouffé. Il est dans ce genre de situation qui peut nous arriver dans la vie. Qu'est-ce qu'il va faire, Jonas? Regardez avec moi le verset 2. Verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Ah! Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Première chose, Jonas prie. C'est ce qu'on va voir du verset 2 au verset 8. Souvenez-vous que Jonas avait décidé de fuir loin de la face de l'Éternel. Maintenant qu'il est en train d'aller vraiment loin de la face de l'Éternel, mais pas dans le sens qu'il avait choisi, Dieu a envoyé Jonas à l'est. Jonas a décidé de partir à l'ouest. Mais en ce moment, il est en train d'aller plutôt, non pas à l'ouest ni à l'est, mais il va dans le sud. Il va vers le sud. Il s'enfonce désespérément dans l'eau. Il avait décidé de fuir la face de l'Éternel. Et maintenant, il est en train de fuir, mais dans une direction contraire à celle qu'il avait choisie. Il pourrait se dire, de toutes les façons, j'ai déjà essayé de fuir. Donc, c'est peut-être pas la peine d'essayer de retourner vers Dieu. Il pourrait dire, je vais essayer toutes ces techniques-là dont j'ai parlé, yoga, les amis, l'alcool, la drogue. Mais non. Et puis, de toutes les façons, dans la situation où il est, chaque seconde compte. Le temps est compté. Il faut faire vite. Il faut prendre une décision rapidement. Jonas va se tourner vers l'Éternel. Jonas va prier. Dans une situation difficile et compliquée, le réflexe de Jonas, ça va être de prier. Et là, peut-être qu'au premier regard, au regard de la situation, on peut très facilement essayer de critiquer Jonas rapidement et de dire, bien fait pour toi, tu n'avais qu'à obéir à Dieu. Sois un homme et assume les conséquences de tes choix et de tes actes. Mais en fait, il y a chez Jonas une bonne connaissance de Dieu. On l'a dit l'autre jour, même s'il fait des choix qui ne sont pas corrects, et il y a chez lui une bonne connaissance de Dieu. Il sait que Dieu n'est pas un Dieu vengeur et rancunier, mais plutôt un Dieu grand en bonté, un Dieu qui est lent à la colère et riche en miséricorde. Remarquez déjà que c'est dommage qu'il faille attendre d'être dans la détresse pour prier. Je veux dire, mais en fait, c'est souvent comme ça que nous sommes. Les détresses que nous connaissons, petites ou grandes, nous poussent souvent à reconnaître notre besoin de Dieu. Parce que lorsque tout va bien, il est rare que nos cœurs soient débordants de reconnaissance. Bien souvent, on attend d'être dans le gouffre pour crier à Dieu. Et je vous ai dit cette citation de C.S. Lewis. Il dit que Dieu murmure dans les moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde englouti. Dans sa prière, Jonas décrit la terreur qu'il avait. Il parle de sa détresse au verset 3. Il parle du séjour des morts dans ce même verset-là. Il décrit les courants d'eau qu'il avait environnés au verset 4. Il parle de l'abîme qu'il a enveloppé. Il parle des roseaux qui avaient entouré sa tête. Il évoque le fait qu'il avait coulé jusqu'aux racines des montagnes. J'imagine que lorsque Jonas est jeté dans l'eau, il coule et il va vraiment, vraiment, vraiment au fond. J'imagine que le grand poisson ne le récupère pas juste à la surface de l'eau. Il descend jusque dans les profondeurs. Et c'est pour ça qu'il peut décrire avec autant de justice les profondeurs de la mer. Ah, cette souffrance, cette détresse que Jonas décrit, elle peut être la situation dans laquelle on est en ce moment. Elle peut être la situation dans laquelle on se retrouve de temps en temps. Le péché de Jonas l'avait été en train de l'amener à la mort. Il recevait ainsi le juste salaire de ses choix et de ses actes, le juste prix de son péché. Et le réflexe de Jonas est clair. Jonas va crier à Dieu. Il va chercher son secours en Dieu. C'est contre Dieu que Jonas a péché et c'est vers lui qu'il va se tourner encore pour chercher le secours. Quand nous sommes dans quand nous voyons les déchets provoqués par notre péché, quand nous nous rendons compte que notre désobéissance nous détruit, quand la gravité de notre situation de pécheur commence à peser sur nous comme l'eau qui a pressé Jonas, la bonne chose à faire, le bon réflexe à avoir, c'est de prier à Dieu, c'est de crier vers Dieu. Quand nous devenons conscients de notre péché, notre seul recours, c'est de crier à Dieu. Et il n'y a personne d'autre qui peut nous aider. Jonas ne pouvait compter sur personne d'autre. Dans sa situation, son seul espoir, c'était Dieu. C'est vers lui que nous devons tourner nos regards. C'est vers lui que nous devons crier. Et ceci est valable non seulement pour les situations précises de la vie, mais encore plus vrai pour le salut de notre âme. Chaque péché de notre vie est en fait une offense à Dieu. C'est-à-dire que c'est contre Dieu que nous péchons, mais c'est encore contre Dieu, vers Dieu, que nous devons nous blottir. C'est encore vers Dieu que nous devons aller, que nous devons crier. Pour rappel, un des thèmes forts de ce livre est que le salut vient de l'Éternel. Jonas va le reconnaître au verset 10. Il va dire, le salut vient de l'Éternel. Rien et absolument rien ne pourra sauver notre âme en dehors de la bonté de Dieu. Et cette bonté-là, on la voit dans la mort de Jésus pour le pardon de nos péchés, dans sa résurrection pour nous donner de l'espérance. Ce qu'il faut faire, le réflexe à avoir, le bon réflexe à avoir, dans les situations difficiles de la vie, c'est de crier à Dieu pour être secouru. Ce qu'il faut faire pour le salut de notre âme, c'est invoquer l'Éternel. Paul dit dans Romains 10, le verset 13, il dit que « car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Dieu veut toujours nous aider. Dieu veut toujours nous faire du bien. Il ne s'en lasse pas. Il prend plaisir à nous faire du bien. Et d'ailleurs, regardons un peu maintenant ce qui se passe lorsqu'on prie. Premièrement, Jonas est dans une détresse. Et quel est son premier réflexe? Il prie. Il crie à Dieu. Et maintenant, regardons ce qui se passe lorsqu'on prie, lorsqu'on crie vers Dieu. Mais avant de regarder à ce qui se passe, gardez bien en tête dans quel contexte, dans quelles conditions est Jonas en ce moment. Jonas est certes un prophète de l'Éternel, mais en ce moment, Jonas est un rebelle. Il a désobéi à Dieu. Jonas a fait des choix contraires à ce que le Seigneur lui avait demandé. Mais est-ce que Dieu va l'abandonner? Est-ce que Dieu va être loin des cris de Jonas? Absolument pas. Dieu est présent dans la prière de Jonas. Dieu ne reste pas insensible à la prière de Jonas. Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe avec Jonas. Et d'ailleurs, rendez-vous compte, comme je viens de le dire, Jonas n'est pas la personne la plus sainte à ce moment-là. Mais Dieu est présent. Dieu est présent pendant qu'il prie. Dieu ne lui dit pas, comme nous faisons souvent, bien fait pour toi. Dieu ne lui dit pas, tu l'as bien mérité. Absolument pas. Jonas prie et Dieu est présent. Et comment on voit que Dieu est présent dans le texte? On le voit dans le verset 2. Regardez le verset 2. Jonas dit, verset 3 plutôt. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas crie, il prie et Dieu entend sa voix. Au verset 8, il va dire, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. » Dieu entend la prière de Jonas. Dieu exauce la prière de Jonas. Et on va voir plus tard que Dieu va sauver Jonas. D'entrée de jeu, Dieu dit, « Je t'ai invoqué et tu m'as exaucé. » On aurait pu s'attendre à ce qu'il explique d'abord sa prière et qu'à la fin, il dise, « Ah, oui. » Et qu'à la fin, il nous dise si oui ou non Dieu l'a exaucé. Mais la base de sa prière, c'est que Dieu l'a exaucé. Est-ce que Dieu vous exauce souvent? Est-ce que Dieu vous exauce souvent? Comment savoir, comment savez-vous si Dieu vous exauce souvent? Moi, j'ai deux petites astuces. Une première astuce, si vous voulez savoir si Dieu vous exauce, une première chose, c'est déjà de prier. C'est déjà de crier à lui et de voir comment il l'exauce. Deuxième chose, je connais un ami qui tenait un cahier de prière. Il notait tous les sujets pour lesquels il priait. Il barrait au fur et à mesure ceux que Dieu avait exaucés. Mais il y avait ce sujet-là qui revenait à chaque fois. Quand il tournait de page, il réécrivait le sujet et il priait. Il barrait plein de sujets, mais le sujet était toujours là. Et il le remettait encore. Et un jour, je lui ai demandé, mais où est-ce que tu trouves la force, l'énergie et le courage, la motivation pour continuer de prier pour ce sujet-là? Il m'a répondu, ma force et ma confiance sont renouvelées chaque fois que je vois ou me souviens d'un sujet qui a été barré. Ça me rappelle que Dieu m'a exaucé un jour et je vis dans la perspective et la confiance qu'il m'exaucera encore. Ça, c'est fort. Dieu exauce la prière. Et une bonne façon, dans ce que cet ami faisait, c'est il vient continuellement devant Dieu avec ce qui tracasse son cœur. Et même lorsqu'il n'a pas encore eu d'exaucement, il revient avec le même sujet. Et il trouve la motivation, la confiance pour continuer de prier parce qu'il sait qu'un jour, Dieu lui a déjà exaucé. Dieu exauce la prière. Et une bonne façon de prier, c'est de prier avec confiance. Prier en sachant qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Quelqu'un qui écoute la prière, même celle d'un rebelle, celle de Jonas le rebelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être saint pour prier. Si vous attendez d'être saint pour prier Dieu, alors vous allez attendre très longtemps. Et ça ne viendra pas. Osez emmener vos souffrances devant Dieu. Osez mettre Dieu à l'épreuve. Et moi, ce soir, j'ai envie de vous mettre, vous, au défi. Au défi d'ouvrir vos cœurs et de dire à Dieu vos attentes. Au défi d'ouvrir vos cœurs et de dire à Dieu vos blessures, vos faiblesses, vos soucis. Dieu va sauver, Dieu va non seulement exaucer et écouter Jonas, mais encore il va le sauver. Malgré que le péché de Jonas l'envoie jusque dans les profondeurs de la mer, dans le sein du séjour des morts, l'idée ici c'est une phrase pour expliquer qu'il était vraiment allé dans les profondeurs. Le fait qu'il était vraiment enfoncé dans les profondeurs de la mer. Malgré tout ceci et contre toute attente, Jonas se rend compte qu'il n'est pas mort. Ah! Jonas est jeté dans l'eau, mais il se rend compte qu'il n'est pas mort. Il est bien vivant. Et ça, c'est grâce à Dieu. Dieu a sauvé Jonas par ce grand poisson. Si le poisson n'avait pas englouti Jonas, Jonas serait mort, noyé. Au verset 1, on voit bien que c'est Dieu qui envoie le grand poisson pour avaler Jonas. C'est Dieu qui sauve Jonas. Dieu sauve le pécheur qui voulait fuir de sa face, mais qui décide de l'appeler au secours. Dieu sauve aujourd'hui tout homme qui se sent perdu et qui se souvient de l'Éternel. Comme il le dit au verset 8, il dit « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Dieu sauve. Et lorsque Dieu agit en faveur de Jonas, lorsque Dieu agit dans la vie de la personne qui crie à lui, la perspective change. En tout cas, on le voit bien dans la prière de Jonas. C'est une prière avec un grand sentiment d'espérance. Regardez au verset 7 ce qu'il dit. Il dit, « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » Au verset 8, il va dire, « Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à ton saint temple, quand mon âme était abattue au-dedans de moi. » Au verset 10, il dira, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. » C'est une prière qui... dans cette prière, Jonas parle de l'avenir. Et il parle avec les yeux fixés vers ce qui est... Vers quelque chose de nouveau. Des choses qui seront de nouveau possibles. Rendez-vous compte, Jonas est encore dans le ventre du poisson. Il n'est pas dans un environnement très favorable, très agréable. Mais il a déjà une grande espérance. Jonas ne savait certainement pas comment les choses finiraient. Mais voyant que Dieu était intervenu, voyant que Dieu s'était mêlé de sa situation, il pouvait désormais la vivre avec un grand espoir. Et son espoir n'était pas dans sa capacité à lui, ni dans celle de ses amis, ni dans quelques excès que ce soit. Son espoir était dans le Dieu en qui il espérait. Le Dieu à qui il a crié, son espoir était dans le Dieu qui sauve. J'aimerais attirer l'attention sur une chose qui m'a marqué dans ce texte. J'en ai parlé un peu lors du groupe de maison il y a 2 semaines. Dans la prière de Jonas, on voit qu'il cite, il fait allusion à plusieurs psaumes de la Bible. Et je vous ai dit tout à l'heure, lorsque je lisais le psaume d'introduction de ce texte, le psaume 118, à partir du verset 17, je vous ai dit qu'il y a un grand écho à ce qui est dit dans Jonas chapitre 2. Dans la prière de Jonas, il y a beaucoup de versets bibliques qu'il cite. Pour prier intelligemment, dans les temps de crise, il est utile de s'être rempli de la parole de Dieu pour les temps de crise. Je veux dire, pour prier intelligemment, pendant que tout va bien, lorsque tout va bien, parce qu'on passe tous par des temps difficiles, à un moment ou à un autre, et pour prévenir ces moments-là, il faut se remplir de la parole de Dieu. Lorsque je suis secoué dans des moments de difficulté, de crainte, de tentation, je réalise que ma tête est prompte à m'amener au loin. Mais les vérités de l'Écriture dont je me souviens, les vérités de la Bible dont je me suis rempli pendant que tout allait bien, viennent devenir comme des attaches qui évitent que je m'enfonce davantage. Une bonne façon de prier, une façon de prier intelligemment, c'est de prier, c'est de lire les Écritures, se remplir des Écritures. Autre chose qu'on voit dans la prière de Jonas, c'est que Jonas va se repentir et il va s'engager. On voit ça dans les versets 9 et 10. Il voit la délivrance et l'espérance qu'il y a en Dieu. Ce prophète qui s'est éloigné de la présence de Dieu veut désormais revenir. Il veut désormais voir le Saint-Temple de Dieu. Il veut être dans la présence de Dieu une fois de plus. Celui qui a dormi pendant que les mariniers étaient en train de prier, veut maintenant offrir des sacrifices à son Dieu avec un cri d'action de grâce. Jonas change de perspective. Il reconnaît que s'attacher à des idoles, c'est s'attacher à autre chose qu'à Dieu, c'est prendre le risque de vivre loin de la miséricorde. Et il en sait quelque chose. Il l'a vécu. Et maintenant, il fait chemin arrière. Au verset 10, il va dire « Pour moi ». Il dit « Pour moi » et parle de façon personnelle. C'est une décision radicale qu'il va prendre. Et il dit, il a eu le temps d'observer et de comprendre ce qui s'est passé. Et là, il prend une double décision. Je t'offrirai des sacrifices. C'est au verset 10. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Avec des cris d'action de grâce. Au lieu de bouder et de se plaindre, Jonas s'engage à être reconnaissant. Reconnaissant pour ce que le Seigneur s'est engagé dans sa situation. Deuxièmement, il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Jonas semble vouloir revenir à ce à quoi Dieu l'appelle, c'est-à-dire à son rôle de prophète. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 3. Jonas revient à son rôle de prophète et il dit qu'il va accomplir les vœux qu'il a faits. C'est en partie aller porter le message de Dieu partout où il est envoyé. Pour nous aujourd'hui, accomplir les vœux que nous avons faits, c'est revenir de notre péché. C'est revenir à cette sainteté-là qu'on a chanté tout à l'heure. Se repentir, tourner le dos au péché et revenir sur le sentier de la justice. Accomplir nos vœux envers Dieu, c'est dire régulièrement et intentionnellement, nous aussi, avec Jonas, à notre entourage, le glorieux message de l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle du salut. Nous voyons un vrai changement de cœur chez Jonas, tout en reconnaissant son état dans le ventre du poisson, chassé loin du regard de Dieu. La repentance, Jonas se répand, et la repentance implique toujours un changement d'attitude dans le cœur. Le problème de Jonas est résolu dans la repentance, parce que rien d'autre ne ruine plus l'âme que le péché. Jonas se répand et s'engage pour Dieu, et Dieu va s'engager en faveur, Dieu va agir en faveur de Jonas. C'est ce qu'on voit au verset 11. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dieu parle au poisson pour qu'il rejette Jonas sur la surface de la terre. On voit là une fois de plus la grande souveraineté de Dieu. Au chapitre 1, Dieu avait déclenché la tempête. Et dès que Jonas a été jeté dans l'eau, Dieu a apaisé la tempête. Au début du chapitre 2, Dieu a envoyé le poisson pour avaler Jonas. Et lorsque Jonas prie et qu'il se répand, Dieu parle au poisson pour que Jonas soit rejeté. Dieu est souverain sur tout ce qui existe. Dieu est souverain sur toutes les circonstances de la vie. Dieu est souverain sur ce que vous vivez, sur ce que nous vivons en ce moment. Dieu règne en maître absolu de l'univers et même aussi sur la vie de ses enfants. En conclusion, à la lecture du texte, on peut croire que c'est parce que Jonas a prié l'Éternel que l'Éternel l'a sauvé. Mais en fait, non. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Avant même que Jonas ne prie, l'Éternel avait déjà délivré, avait déjà créé un contexte de salut pour Jonas. Dieu avait déjà envoyé le poisson pour le sauver de la mort. C'est au verset 2 que Jonas commence à prier. Mais quand est-ce que Dieu envoie le poisson pour sauver Jonas? Au verset 1. En faisant cela, Dieu a mis Jonas dans un contexte de prière. Dieu a mis Jonas dans un contexte de reconnaissance. Dieu a mis Jonas dans un contexte de repentance. En fait, ce que Dieu a fait pour Jonas, il l'a fait aussi pour l'humanité. Il l'a fait aussi pour nous. Dieu a manifesté son amour pour le monde lorsqu'il a donné son fils Jésus à la croix pour le salut de l'humanité. Jésus est mort. Jonas a fait 3 jours vivant dans le ventre du poisson, mais Jésus en a fait 3 aussi, mais il était mort dans le tombeau. Et Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité le 3e jour. En cela, Dieu nous mène, nous aussi, comme il a mis Jonas dans un contexte de reconnaissance, de prière et de repentance. Il met tout homme aussi, par la mort de Jésus, par la possibilité du salut, par la possibilité de la réconciliation avec Dieu. Il met tout homme dans le contexte de repentance comme Jonas. Il met tout homme dans un contexte de reconnaissance comme Jonas. Il met tout homme dans un contexte de prière comme Jonas. Dieu attend que nous l'invoquions pour qu'il nous réponde. Deux choses fortes que je pourrais dire pour terminer. Pas besoin d'attendre d'être au fond du gouffre pour invoquer l'Éternel. Deuxième chose, nourrissons-nous, remplissons-nous de la parole de Dieu dans les temps où tout va bien, afin de préparer les temps qui seront difficiles. Je vous invite maintenant à...